Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Si vous prenez un pas de recul puis vous regardez la situation dans son ensemble, ce qu'on constate présentement, c'est que le gouvernement, c'est faux ce qui s'en va. C'est une espèce de poule pas de tête qui se promène à gauche pas à droite, qui va à tâtons. C'est une improvisation totale. Il voit rien venir. Il n'est pas capable d'anticiper ce qui va arriver. Il navigue à vue.
Ça va, Éric? T'es correct? Tout va bien?
Bonjour, Benoît.
Ça, c'est Éric Duhaime, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Bonjour, Éric. Ça, c'est un extrait de ton point de presse, en tout cas ta clip vidéo, je pense, appelle ça, pour le Parti conservateur de mardi dernier. Tu trouves pas ça un peu, ça manque de nuances comme propos?
Ben écoute, je trouve que l'approche du gouvernement actuel manque de nuances. Moi, je trouve que les politiques qu'on est en train d'imposer aux Québécois manquent de nuances. Je regarde ce qui se passe au sud de nos frontières, puis je regarde ici, puis j'ai l'impression de vivre dans une réalité.
Non, non, mais attends, Éric. Là, c'est parce que là, tu prends ma question, tu apprends dans ta réponse. Non, je connais le bowling, là. Ça manque de nuances, là, de dire que le gouvernement poule pas de tête. Quand on regarde Doug Ford qui vient de fermer pour un mois en Ontario, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est facile de dire ça.
Regardons ce qui se passe ailleurs, Benoît. Ils prennent toujours l'exemple de l'Ontario puis la France, qui sont deux des pires législations au niveau des politiques publiques en matière de mesures sanitaires. Mais regarde ce qui se passe aux États-Unis. Là. Il y a beaucoup de Québécois là, qui connaissent bien la Floride. Là. Parle aux snowbirds qui sont encore là-bas. Là. Puis comparons avec ce qui se passe au sud de nos frontières. Il y a 18 États présentement où on est en déconfinement, où les cas n'augmentent pas, où les courbes sont sensiblement les mêmes que chez nous. Il y a des Québécois qui ont vu en fin de semaine dernière le match d'ouverture des Blue Jays de Toronto au Texas où il y avait 42 000 personnes dans les estrades. Je veux dire, on voit aussi ce qui se passe justement ailleurs. C'est pour ça qu'on est critique des politiques publiques.
C'est parce qu'en Floride, c'est parce que tu donnes l'exemple de la Floride, Éric, là, tu sais, il y a plus de 33 000 décès en Floride. 33 000.
Attends, c'est quoi le ratio de la population?
Non, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'on peut pas le donner en exemple parce que c'est un réactionnaire. C'est DeSantis qui est là. Ça veut rien dire, là. On prend les choses hors contexte. Parlons de ce qui se passe à Québec, là. C'est pas drôle. On s'est parlé, toi puis moi, à quelques reprises. Puis j'embarquerai pas dans tes chicanes ailleurs, là, avec les autres chroniqueurs. Ça, je m'en fiche. Ça me regarde pas. Là, tu sais, on s'est parlé puis, je trouve que là, avec la mort du monsieur de 40 ans là, qui serait allé au méga gym fitness, tu trouves pas que là, ça vient de prendre une tournure où il va falloir faire attention à ce qu'on dit?
Mais il faut faire attention.
Oh, le téléphone vient de lâcher. Je sais pas, ça se peut-tu? Le téléphone vient de lâcher. Monsieur, c'est Étienne Desrochers-Jean, un client du Mega Gym qui est décédé le 5 avril chez lui après avoir contracté la COVID. Il s'était rendu à l'hôpital 2 jours plus tôt. Il est mort chez lui, 40 ans. Puis là, Éric, t'es en train de répondre à ça, puis le téléphone a lâché ou les signaux à plus, je sais pas. On va se faire des signaux, on va se parler. Qui m'envoie un fax pour répondre. On a-tu un fax? On n'a pas de fax. Qui m'envoie un courriel. On va l'attendre. On attend. Éric Duhaime est là. OK, Éric.
Oui, excuse-moi. Non, même non. La ligne téléphonique aime pas nous chicaner.
Non. c'est un complot. C'est un complot. Il y a quelqu'un. C'est Régis Labombe qui a décroché ton. Regarde donc par ta fenêtre, voir s'il n'est pas monté dans un poteau pour couper ton fil.
Ça doit être ça. On dit poteau, nous autres, à Québec.
Non, poteau. Ouais, puis au motel. Sérieusement, Éric, Étienne Desrochers-Jean, 40 ans, qui est décédé, oui. Un client du Mega Gym, Dan Marino, c'est un de ta gang là, qui disait, ben non, il n'y a pas de... C'est plus drôle, là.
Mais regarde bien, là. D'abord, le gars, il a quitté l'hôpital. On ne sait pas pourquoi. Comment ça se fait qu'ils l'ont envoyé chez eux? Comment ça se fait qu'il est décédé chez lui? On va laisser les autorités faire leur travail, là. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, il y a une étude de l'Institut économique de Montréal qui est sortie pour dire qu'il y a eu 6700 décès qui auraient pu être évités si on avait géré différemment nos personnes âgées en CHSLD. C'est drôle, il y a plus de couverture médiatique sur un décès que sur les 6700 aujourd'hui.
C'est parce que c'est pas la même affaire. Là, tu mélanges les trucs. Les CHSLD, c'est une mauvaise gestion qui remonte à des décennies, là. C'est pas d'aujourd'hui que ça va tout croche dans les CHSLD.
On a pris des décisions en période de pandémie. On a choisi choisi de renvoyer ce monde-là dans les CHSLD plutôt que
tout à fait. Ça, c'est vrai.
Il y a eu des impacts, il y a eu des milliers de morts.
Ça, c'est vrai. Mais revenons.
Le gouvernement refuse. Attends, le gouvernement aujourd'hui essaye de trouver un bouc émissaire avec un propriétaire de gym, avec un gars qui est possiblement mort de ça. Et pendant ce temps-là, il refuse de faire une enquête publique sur les 6500 morts en raison de sa mauvaise gestion.
Mais il y a personne dans les CHSLD qui est allé dans les radios à Québec puis dire, il y en a pas de COVID, puis c'est pas grave, puis je vais ouvrir mon gym le soir ou le matin, puis je vais baisser la lumière pour faire ça sans qu'on s'en aperçoive. Puis là, vous êtes rendu à 436 cas aujourd'hui. C'est-à-dire, Éric, va falloir se parler sérieusement, là. La responsabilité des négationnistes, la responsabilité des médias, ta responsabilité, toi qui veux être chef du Parti conservateur, à un moment donné, il faut arrêter
faut arrêter de faire peur au monde aussi.
Comment ça faire peur?
Comment ça se fait qu'on est capable, dans 18 États aux États-Unis, de déconfiner, puis qu'eux autres, c'est pas l'hécatombe, puis il n'y a pas du monde qui hurle à la radio?
C'est pas l'hécatombe aux États-Unis. C'est pas l'hécatombe aux États-Unis.
Les chiffres sont comparables aux nôtres. Les chiffres sont comparables aux nôtres en termes de décès. Là.
Ouais. C'est quoi le but de défier? J'écoutais là, tes messages là sur YouTube. Là, on voit que là, on dit qu'il y a plus de membres au Parti conservateur que jamais auparavant. C'est quoi le but de défier les consignes sanitaires à part vouloir recruter des crinqués conspirationnistes?
Les mots toujours pour essayer d'insulter le monde au lieu de pas d'argumenter là. L'idée, c'est juste de dire, il y a des politiques qui sont prises ici, qui sont très différentes de la majorité des autres États qui nous entourent, et ça a des impacts graves. Puis on peut parler des cas de COVID, mais j'aimerais ça aussi qu'on parle des cas de dépression, j'aimerais ça qu'on parle des cas de décrochage scolaire, j'aimerais ça aussi qu'on parle des cas de faillite, des cas de perte d'emploi. On a l'impression que tout est focalisé sur des cas. Puis regarde même le nombre de morts actuellement, là, c'est quelques morts par jour, alors qu'on était à plus d'une centaine par jour dans la première vague. Présentement, là, les vaccins font leur effet. Les personnes les plus âgées ont été vaccinées et c'était les personnes de loin les plus vulnérables.
Mais crois-tu aux variants?
Ben oui, je crois aux variants. J'ai jamais dit qu'il y a des variants qui n'existaient pas. J'ai jamais dit que la COVID n'existait pas. Quand tu dis que je suis négationniste, je ne sais pas de quoi tu parles.
Ben, c'est parce qu'il y en a dans ceux et celles qui te suivent qui amènent ça plus loin puis tombent dans le négationnisme. Ce qui est dangereux parce que là, on parle de santé publique, on parle de pandémie.
Oui, mais il y en a qui suivent et qui mettent de double masque dans la maison. Tu sais, je veux dire, ça, on peut pas empêcher
ça,
le monde de penser puis d'agir comme ils veulent.
Mais s'ils sont plus prudents que l'inverse, tant mieux. Je préfère qu'ils soient plus prudents que de se promener dans un gym puis dire mes stéroïdes vont me protéger contre le coronavirus.
Parce qu'à chaque fois qu'on impose des nouvelles restrictions puis des nouvelles mesures sanitaires abusives, il y a des impacts. C'est pas des impacts nécessairement juste à la COVID, mais il faut prendre l'ensemble des impacts négatifs. Puis il y en a des dommages collatéraux, puis on commence à les subir au Québec. On va les subir plus que n'importe qui ailleurs en Amérique du Nord, parce que notre gouvernement était plus confineur que tous les autres.
OK, regarde, Éric, je vais te citer. Toi, tu l'aimes bien, Adrien Pouliot, là. C'est un ami, là. Il a écrit le 1er avril...
Hein? C'est le chef sortant du Parti conservateur du Québec.
OK, mais c'est pas ton ami.
Ben, c'est quelqu'un que je connais très bien, oui, je peux dire que c'est un ami.
OK, donc c'est un ami. OK. Bon, mais choque-toi pas.
C'est ton chroniqueur dans ton émission aussi.
Ouais, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il a dépassé les bornes, puis j'ai mis fin à ça. Combien des 68 cas du Mega Gym ont été hospitalisés, demande Adrien Pouliot sur Twitter le 1er avril dernier. Si j'ai bien compris, zéro. Est-ce que ça justifie un reconfinement? Là, tu dis, là, aujourd'hui, c'est 436 cas. Tu comprends qu'il y a personne qui peut jouer à Aladdin puis au, avec sa lampe magique. Il y a personne qui peut prévoir l'avenir.
Moi, ce que j'aime pas, là, c'est qu'on essaie de trouver des boucs émissaires. Comment ça se fait quand il y a 1000, parce qu'il y a quand même, il y a 400 cas, là. Depuis ce temps-là, là, depuis le début que ça a éclaté, mettons, il y a une semaine ou deux, il y a eu 14 000 cas dans l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on pointe du doigt des gens parce qu'ils ont été contaminés dans un endroit public?
On les pointe pas. On veut leur éviter de souffrir, puis on veut leur éviter de mourir. Mais pour ça, faut s'informer, puis faut arrêter de se crinquer avec des conspirations puis des théories de complot.
Faut arrêter aussi de chercher des boucs émissaires.
Des responsables. Éric, il y a une différence entre bouc émissaire et responsable. Est-ce que quand tu prends la parole en public, t'es responsable?
Absolument.
Oui.
Absolument.
Ben c'est ça l'affaire. Puis on est rendu là, là. Puis là, il y a un homme de 40 ans qui avait l'air assez aimé là, par ses proches, puis un homme positif. Puis...
Comme les 6700 dans les CHSLD qui sont décédés, il y avait beaucoup de monde qui les aimait aussi.
Il n'y a personne qui a dit on rentre dans le CHSLD en cachette pour défier les consignes sanitaires. Éric, arrête avec ça.
Non,
c'est une comparaison qui tient pas la route.
On a pris des décisions. Mais premièrement, on sait même pas si le gars qui l'a contracté, on sait même pas pourquoi il a été renvoyé de l'hôpital deux jours avant de mourir. Il y a beaucoup encore d'inconnus. Là. Fait qu'avant de spéculer, on va parler juste de...
On spécule pas, là. C'est ce qu'on affirme. Là. On affirme qu'il était client au Mega Gym, puis Dan Marino s'est ramassé à l'hôpital parce qu'il a pogné la COVID. Lui qui le voulait défier. Lui qui voulait ouvrir son gym à tout prix. Ben c'est ça que ça a donné. Là.
Mais c'est... Parce que tu peux parler d'un cas, tu peux parler d'un mort, mais moi je regarde la crise dans son ensemble, je regarde les bénéfices puis les inconvénients des mesures sanitaires qui ont été mises en place au Québec depuis le début de la crise.
C'est de la merde. C'est de la merde partout là, Éric. Tu sais, on peut bien critiquer puis on peut bien chercher la faille pour essayer de discréditer le gouvernement.
Explique-moi combien de gens ont été sauvés à cause du couvre-feu. Explique-moi c'est l'impact positif du couvre-feu.
Ça, Éric, c'est la question magique parce que ça touche la prévention puis on ne le saura jamais.
Mais comment ça se fait
si
qu'il y a
t'arrêtes de fumer, là, si on dit d'arrêter de fumer, les gens arrêtent de fumer, on ne saura pas combien de gens on a sauvé du cancer.
Il y a des choses qu'on sait, par exemple. On sait, Benoît, qu'on est la seule province au Canada qu'il y a un couvre-feu, puis on sait qu'on est la pire province.
Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Parce que là, à un moment donné, tu veux aller en politique provinciale. Faut que tu proposes des choses.
Je vais t'en parler de mes propositions.
Vas-y.
Moi, je pense qu'il faut protéger les personnes vulnérables. Il faut accélérer la campagne de vaccination. Puis il faut permettre aux gens de continuer de vivre.
OK, je pense que ça, c'est...
s'attaquer aux enfants.
OK, non, attends. Ça, la vaccination, ça relève du fédéral. Et je pense que là, on essaye de faire le plus possible. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
Wow. Non, on n'est pas d'accord là-dessus.
T'es pas d'accord là-dessus.
De blâmer encore le gouvernement fédéral. Le gouvernement Legault, là, il y a 400 000 doses qui dorment dans les congélateurs, là. Et moi, je te dis qu'il y a deux jours à Québec, qu'on est supposément la zone noire par excellence au Québec, là. Il y a pendant une journée, pendant 24 heures, il n'y a eu aucune vaccination. Zéro.
Qu'est-ce que tu penses? Que devrait faire Régis Labeaume dans ce contexte-là?
On devrait décentraliser, on devrait faire comme là où ça fonctionne, les campagnes de vaccination, encore une fois, au sud de nos frontières. Au Québec, on centralise tout, il faut que tout soit bureaucratique puis gouvernemental. Pourquoi on n'a pas impliqué d'abord beaucoup plus et plus tôt les pharmacies? Pourquoi on n'envoie pas ça puis on laisse pas les directions régionales décider?
OK, formule-la à l'envers, Rick. Je te dirai pas quoi faire dans la vie, là, mais moi, je t'incite à le faire, à formuler à l'envers. Qu'est-ce que toi, tu ferais? Qu'est-ce que tu suggères au gouvernement pour le bien commun? Pas pour recruter du monde, pour le bien commun, qu'est-ce que tu ferais?
Je décentraliserai les décisions, j'enverrai d'autres dans les régions, je laisserai les gens qui connaissent la réalité sur le terrain fonctionner, puis je laisserai les gens libres d'une région à l'autre de s'agir. Là, présentement, justement, à Montréal, ça va un peu mieux, parce qu'ils ont vacciné beaucoup plus de gens à Montréal qu'ailleurs au Québec. Tu sais, faut pas oublier ça, nous autres,
on a parce que les restaurants sont fermés. Ah oui, puis il y a du confinement aussi, là, tu sais.
Non, mais il y a des gens de 80 ans là, qui attendent leur rendez-vous, qui ne l'auront pas encore avant dans un mois, alors qu'à Montréal, il y a des gens de 60 ans qui sont vaccinés. Là. C'est ça aussi la réalité. Là.
Fait que tu veux faire quoi? Tu veux envoyer des vaccins en région puis limiter la vaccination à Montréal?
Au prorata de la population.
Mais s'il n'y a pas d'éclosion dans une région, vas-tu vacciner en priorité ou t'essaies d'éteindre les incendies?
On attend que le feu soit là avant de commencer à agir?
Non, mais qu'est-ce que tu fais avec l'incendie qui est déjà en cours?
Mais tu fais la même chose que s'il n'y en a pas, tu t'essaies de t'assurer que tout le monde, on protège de plus en plus les vulnérables partout au Québec.
As-tu
les plus vulnérables, c'est les plus âgés.
Oui, mais ça, on l'a fait, là. On s'est occupé des personnes en CHSLD. Là, il reste les personnes âgées en région. J'espère qu'on va y arriver. As-tu vu, Éric, le tweet de Maxime Bernier sur le passeport vaccinal qui a mis une photo? Il dit c'est pour bientôt. Et là, il a mis une photo de deux soldats nazis qui contrôlent un citoyen avec une casquette, là, tu sais, des années 30. Là, il dit coming soon near you, bientôt près de chez vous, papier, bit. Là, on compare la santé publique aux soldats nazis.
Écoute, c'est pas le genre de comparaison que je ferais.
Mais il s'adresse à qui, Maxime Bernier, selon toi?
Il faudrait demander. Je l'ai même pas vu. Je sais même pas de quoi tu parles.
Tu l'as pas vu?
Non.
OK. Considérant que toi, t'es contre le passeport vaccinal, ça, en même temps, là, tu dis, considérant la vaccination est un choix individuel et personnel, Est-ce que ta prémisse est erronée, là? Est-ce que c'est pas un choix collectif? Puis si on veut sortir de la pandémie, ben on n'est pas dans un camp de jour, puis c'est pas si on veut jouer au badminton ou pas, là. On n'a pas le choix de protéger les autres.
Écoute, là, moi, je suis contre le fait qu'on ait un passeport vaccinal. Je suis contre le fait qu'on divise la population en deux groupes de citoyens. Je crois que même les États-Unis de Joe Biden, là, tu pourras pas accuser d'être un gars d'extrême droite, là, sont en train de dire qu'ils veulent pas de vaccinal, ils veulent pas de passeport vaccinal au niveau national. Donc, moi, je crois que, ultimement, là, le vaccin, là, il te protège. Et si tu as des raisons médicales ou autres de pas vouloir te faire vacciner, ben c'est un choix. C'est quand même une grosse affaire. Là.
Non, c'est pas un choix. Pas en pandémie, c'est plus un choix. Là. Il y avait 107 000 doses qui niaisaient ici à Montréal.
Cinq minutes, là. T'as pas le monopole de la vérité. Là.
Oui, je l'ai, le monopole de la vérité. Non, il est temps que tu t'en aperçoives, Éric, là.
Ben, peut-être que toi, tu penses ça, mais je m'excuse, mais y a-t-il un État en Amérique du Nord présentement qui oblige les gens à se faire vacciner? Non. On est dans des États où on a encore des droits et libertés, puis on a des libertés individuelles, puis on a des droits démocratiques, et ça en fait partie. Ça, on peut choisir qu'est-ce qu'on se fait injecter dans notre corps.
Mais on parle pas du vaccin obligatoire, on parle d'un passeport vaccin. Ben, fait que si tu as ton passeport...
Moment où la personne n'a pas de passeport, elle vient quoi? Elle devient un citoyen de seconde classe?
OK, mais regarde ça, mais là à l'envers. Moi, je pars de Montréal, je suis pas vacciné, puis je décide d'aller en vacances à Percé, en Gaspésie. Là, je vais, tu sais, là, est-ce que là, on va prendre des chances? Tu parles des personnes âgées en région, là, pour justement protéger les personnes âgées en région. Si la vaccination s'est pas rendue là, est-ce qu'on devrait pas s'assurer que ceux qui débarquent là, ben, ils sont sécuritaires?
Ben, moi, je pense que c'est les personnes âgées vont se faire vacciner. C'est elles qui ont le plus intérêt à se faire vacciner. Puis, on le voit, là, les personnes âgées sont celles qui sont le plus vaccinées. Là où on a rencontré le plus de résistance depuis le début de la campagne de vaccination au Québec, surprenamment, c'est le personnel médical. C'est là où il y a le plus de résistance à se faire vacciner. C'est quand même assez bizarre. Puis j'ai entendu, tu sais, il y a toutes sortes. Même il y a même des médecins qui publiquement expliquent pourquoi ils veulent attendre un peu. Puis garde, tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord, mais il y a des gens qui disent, garde, il y a un vaccin qui a été fait à la vitesse grand V. On connaît pas toutes les conséquences des effets secondaires. On va attendre un petit peu. Puis ces gens-là, faut respecter leur choix. S'ils veulent attendre, ils ont le droit d'attendre. Là.
Toi, tu vas-tu te faire vacciner ou pas?
Ben, je suis pas dans le groupe d'âge.
Mais ça s'en vient. T'es plus jeune, Éric, là. Ben, ça s'en vient.
À 65 ans, là. J'ai encore du temps. Puis d'autres affaires, c'est que même après 65 ans, ce que j'ai compris, c'est que là, ça va descendre à 60. Puis après ça, ça va être en fonction de l'emploi. Je pense qu'aspirant candidat à une chefferie conservatrice, je pense pas que ça fait partie de la liste des priorités en termes d'emploi, là, ciblé. Fait que ça va prendre du temps. Je vais voir quand je vais arriver à mon tour, puis comment, puis ça va être quoi les possibilités, puis où je peux me faire vacciner. Mais j'ai pas d'objection là morale à me faire vacciner. Mais je suis un fervent partisan du libre choix. C'est juste ça. Moi, je veux me faire vacciner, mais c'est mon choix personnel. C'est pas le choix de la société.
Mais c'est en même temps ton rôle dans la société d'essayer de protéger les autres, là, tes convictions basées sur des faits pseudo-scientifiques. On peut pas se fier à ça, là, à un moment donné.
Non, mais on peut dire aux gens, c'est ça la différence entre la vision que j'ai puis la vision que tu as par rapport à la gestion de crise, celle de la CAQ, là.
Ouais.
C'est que eux pensent qu'ils sont mieux placés que les gens pour tout décider, puis ils centralisent tout, puis ils prennent des décisions, puis ils nous traitent comme des enfants, puis ils nous disent quoi faire, puis si on le fait pas, ils nous donnent des contraventions de 1500$. L'autre alternative, là, c'est de responsabiliser les gens, de leur parler comme des adultes, puis de leur donner l'information, puis de leur conseiller quoi faire, puis de leur recommander, mais de leur laisser ultimement le libre choix.
Donc, t'es contre les contraventions pour ceux et celles qui ne respectent pas, par exemple, le couvre-feu ou les consignes ou la distanciation sociale?
Oui, moi, sérieusement, Benoît, j'en reviens pas encore qu'il y a des policiers à Pâques qui se promenaient en quatre roues dans le bois pour essayer de voir s'il n'y avait pas du monde qui faisait des rassemblements ou un feu, qu'il y a des gens que le gouvernement intervient pour dire appelez vos voisins puis dénoncez-les s'ils ont invité leur belle-mère pour Pâques. Moi, je ne veux pas vivre dans un État policier où c'est des policiers.
Tu parles d'exagération. Ta belle-mère à Pâques, là, c'est pas ça, là. Le party dans maison à Pâques. Si c'est pour contaminer les gens, on est en pandémie. C'est comme si ça rentrait pas dans la tête de certaines personnes. C'est une pandémie. Les gens meurent, les gens souffrent, les gens perdent leur job. Tu l'as dit en début d'entrevue. On peut-tu prendre ça au sérieux puis arrêter de chercher à défier les consignes sanitaires pour montrer qu'on a un pénis?
Si on était si bon que ça, Benoît, peux-tu m'expliquer pourquoi on est les citoyens qui ont le confinement le pire du continent? Puis comment ça se fait qu'on est au-dessus de la moyenne au niveau des morts? Si ça fonctionnait si bien que ça, vos politiques, comment
parce
ça se fait que les
gens sont pas au rendez-vous? Tu connais la réponse. Parce qu'il y a eu la semaine de relâche. Trudeau a pas fermé la frontière pour les voyages non essentiels. Hey, ils sont rentrés à l'aéroport d'Orval-Trudeau. Ils venaient de partout dans le monde. On le sait que ça n'a pas aidé.
Il y a deux fois plus d'avions qui rentraient à Pearson, à Toronto, puis l'Ontario a toujours encore moins de morts que nous autres.
C'est le troisième confinement que vit l'Ontario.
Oui, mais ils n'ont pas de couvre-feu, puis il y a un paquet de mesures qui sont très différentes. On a le droit d'avoir des opinions différentes
Éric, faut que tu penses comme moi dans vie. Voyons, il est temps que tu... t'arrives à la fin, là, c'est le 17 avril. Là. Tu vas faire quoi avec le Parti conservateur si tu deviens chef?
Bien, la première chose, c'est que je vais structurer ça. On va commencer à s'assurer qu'on va avoir les moyens de faire une campagne électorale décente, qu'on va avoir des candidats respectables, connus, qui ont le goût de servir dans leur communauté, puis qu'on va commencer à travailler avec le monde, présenter nos idées. Parce que au-delà de la pandémie, j'espère que dans un an et demi, lors de l'élection, ça ne sera plus l'enjeu numéro un. Là. J'espère qu'on va tourner la page, ça va être un mauvais souvenir du passé. Là. Mais il va rester quand même le fait que pendant la pandémie, moi, je pense qu'une des raisons pourquoi le Québec s'en tire moins bien, là, c'est parce que notre système de santé il est médiocre. Puis la pandémie nous l'a mis d'en face. Puis il va falloir qu'on ait une réforme en profondeur de ce système-là. Okay. Puis malheureusement, il n'y a aucun des trois partis d'opposition, ni le gouvernement, qui veut prendre le taureau par les cornes. Puis nous autres, on va proposer une solution pour que, justement, il y ait plus de décentralisation, il y ait plus de concurrence, il y ait plus de liberté de choix. Et on va faire un système de santé plus moderne plutôt que le monstre bureaucratique, le monopole public qu'on a présentement.
Est-ce que tu congédierais Dr. Arruda?
Ça fait pas. Moi, là, je m'en vais pas là pour congédier ou pour embaucher du monde. Je m'en vais là pour changer la façon de procéder. Là. Ça, il y a toutes sortes de processus internes. Là. Puis je vais respecter.
Mais non, mais Éric, il faut que tu sois conséquent. Là, tu viens de passer comme 20 minutes à démolir les décisions de la santé publique. Le top de la santé publique, c'est Dr. Arruda.
Premièrement, je t'ai dit que j'allais décentraliser. Donc, le Dr. Arruda, il aurait pris moins de décisions parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se seraient prises dans les régions. Deuxièmement, il y a beaucoup de recommandations que le Dr. Arruda qui a faites qui n'ont pas été écoutées, puis que le gouvernement a même s'est vanté de pas toujours l'écouter puis d'aller au-delà de ce que le Dr. Arruda proposait. Fait que, le Dr. Arruda, là, il a été beaucoup utilisé politiquement par le gouvernement. Oublie pas ça, là. Puis ça, il faut faire la part des choses là-dedans. Là. C'est pas toute la faute du Dr. Arruda, je m'excuse.
Bon, ben finalement, il y a quelqu'un qui a trouvé grâce à tes yeux.
Ben, il n'a pas trouvé grâce à mes yeux, mais je dis juste que le Dr. Arruda a le dos large parce que je regarde ce qui se passe ailleurs encore une fois, là, puis je vois que souvent les directions de santé publique sont séparées du politique. Puis ici au Québec, là, ils l'ont comme coopté.
Ouais.
Et ça m'inquiète. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des conférences de presse séparées, puis que les recommandations que le Dr. Arruda il fasse, il les fasse au public. Après ça, François Legault explique pourquoi il les suit ou pourquoi il les suit pas, plutôt que d'avoir les deux dans une espèce de mélange puis un amalgame, puis qu'on ne sait jamais si ça sort de la santé publique ou si c'est une décision d'attaché politique puis de communication du parti de la CAQ.
OK. Avant qu'on se quitte, Éric, là, je pense à une question là, qui me vient en tête, parce que là, je lisais qu'il y a des avocats qui disent « Hey, Dan Marino peut se faire poursuivre pour avoir ouvert son gym. » Est-ce que tu penses que ça peut t'arriver à toi? Ça peut arriver à ceux qui ont défié les consignes sanitaires ou qui ont organisé des manifestations. Est-ce que les familles des victimes peuvent dire, ben, t'as les radios, t'as du M, t'as le boss du gym?
La question peut être élargie aussi. Est-ce que c'est arrivé à ceux qui ont fait peur au monde des médias? Qui ont fait qu'on a fait faillite, on a perdu notre job, on a fait des dépressions, on a eu des suicides. Je veux dire, si on commence à jouer à ce jeu-là, il va y avoir bien du monde tout à l'heure qui vont se ramasser au palais de justice.
Mais non, mais c'est pas pareil, parce que défier la santé publique, défier l'ordre qu'on reçoit du gouvernement, c'est quand même de la désobéissance civile.
On vit en démocratie, Benoît. Là. Je m'excuse, mais on a le droit d'avoir des débats sur les enjeux comme ceux-là. C'est des décisions politiques et on a le droit d'avoir des débats politiques. Moi, je veux pas vivre dans un régime totalitaire. Puis je veux pas vivre dans un où la Chine communiste avec le parti.
Bon, les gros mots encore, communiste.
Non, mais c'est parce que le virus vient de là. Puis rappelle-toi comment les décisions étaient prises là-bas. Moi, ce que je dis là, on a le privilège. puis la chance d'avoir grandi dans un pays où on a des droits démocratiques, on a des libertés fondamentales. Puis moi, j'ai l'impression qu'elles ont été bafouées pendant la crise. Puis je pense que c'est important de les préserver.
Non, mais quand t'as... Mais je reviens... De la gauche droite, ça, là. Je comprends, mais je comprends aussi que quand t'as des propos comme Adrien Pouliot, là, qui dit 68 cas, méga gym, hospitalisé, zéro, c'est pas grave, puis on voit ce qui arrive, à un moment donné, il va falloir tirer des leçons de ce genre de message-là.
Bien, c'est parce que à chaque fois qu'il y a un virus, là, on a choisi comme société de pas culpabiliser les gens qui l'ont transmis sans le savoir.
Mais pas d'en faire la promotion non plus de désobéir aux consignes sanitaires.
Oui, mais désobéir aux consignes sanitaires, là, je veux dire, que le premier coupable jette la pierre. Il y a combien de personnes qui ont respecté 100% des consignes depuis le début? Puis dis-moi pas que tu l'as fait, là, parce que je te croirais pas.
Ben,
on a tous un moment donné où on a tous
été exigeant.
Au moment où on n'aurait pas dû.
Mais non.
On a tous visité quelqu'un qu'on n'aurait pas dû, puis on a tous fait quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû.
Ben Éric, m'a dit sincèrement, là, moi j'ai eu mon gars, il a eu 30 ans la semaine passée, puis on n'a pas fait de party, puis tout le monde, tu sais, ma mère, ouais, là, ta voix pas, tu sais, on a fait des efforts en désespoir, là. Collectivement,
oui,
là, on a fait des efforts en hostie, puis on est tous tannés de tout ça. Mais je pense que c'est pas le temps non plus de commencer à trouver des failles, essayer de s'entraider, puis d'être solidaire dans ce combat-là, parce que on n'est pas les uns contre les autres, on est contre un virus.
Mais c'est ça, faut arrêter de se battre entre nous puis arrêter de diviser le Québec en deux, là. Parce que moi, je trouve que depuis un an, là, ça a été un des gros problèmes. Le gouvernement serait supposé être là pour nous rassembler, pas nous diviser. Et moi, j'aime pas ça que quand c'est à la faute des touristes une journée, c'est à la faute des cas vidéo le lendemain, c'est à la faute d'une coiffeuse de Tetford Mines le surlendemain, c'est à la faute d'un karaoké la semaine d'après, c'est à la faute...
Mais quand se l'est les karaokés, tu vas pas me dire que c'est nécessaire dans la vie d'aller chanter des mauvaises chansons de Céline Dion?
Mais je te dis pas ça. Mais je te dis juste que il faut arrêter de pointer du doigt tout le monde des sous-groupes, il faut serrer écoute. C'est pas ça qu'on a fait. On a eu un gouvernement qui nous a divisé. Puis ça, moi, je pardonne pas ça. Quand t'es rendu, tu dis au monde d'appeler, c'est pour te checker ton voisin puis d'appeler la police. Je peux te dire que ça n'a pas amélioré les relations dans une couple de quartiers au Québec, là.
Même entre famille, et même moi, il y a des parents, des amis, des enfants, là, eux autres ont d'autres règles. Toi, t'as les règles, parce que les règles sont pas tout à fait claires. Les enfants de certains rentrent dans les maisons, là, tu dis au tien, non, tu peux pas rentrer dans la maison. Mais là, c'est parce que tout le monde rentre. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, là, tu sais.
Mais c'est pire que ça, là, Benoît, c'est que les règles, non seulement il y a des règles, en plus, les règles changent, ça va peut-être encore même changer à soir.
Ouais.
Et en plus de ça, il y a des règles qu'on dit. François Legault nous dit, les grands-parents, c'est pas une bonne idée de voir aux petits-enfants. Là, la vice-première ministre s'échappe dans une entrevue, puis elle avoue que c'est les grands-parents qui portent ses enfants. Là, oups, ils ressortent une directive de la santé publique, ils nous disent, finalement, ils ont 64 ans, c'est correct. Mais, je veux dire, tu sais, on n'est pas tout sur le site de l'Institut national de la santé publique 24 heures par jour à chercher les règles, puis à s'assurer qu'ils sont mis à jour, puis de vérifier tous les petits détails avec les petits caractères, là.
Ouais.
Et c'est le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop, là, puis on est tout mêlé maintenant.
Là. Mais de là à organiser des manifestations pour démolir les décisions du gouvernement, pas sûr que ce soit bonne affaire non plus.
En démocratie, là, c'est comme ça qu'on s'exprime. Il y a des élections, il y a des manifestations, il y a des pétitions, il y a des entrevues comme on fait là. C'est ça une démocratie, c'est ça le prix à payer pour vivre dans un État libre.
Bon, ben, on va le payer. Éric Duhaime, on se reparle. Merci.
Bye.
Salut.